bienvenue à tous. Je suis extrêmement heureux de vous voir aussi nombreux dès cette première journée du jeudi. Alors vous avez vu la rencontre avec Cédric Villani qui était passionnante. Je n'ai pu malheureusement en écouter qu'une petite partie. Alors table ronde suivante, donc sur un sujet qui me tient à cœur, moi, en tant que modérateur et en tant aussi que délégué artistique. J'ai intitulé ça « Les nations de la science-fiction ». Alors « Les nations de la science-fiction », titre peut-être un petit peu provocateur, vous allez le voir, mais qui en fait est une manière de réfléchir tout simplement, je dirais, aux racines culturelles de la science-fiction et peut-être d'essayer d'identifier ensemble avec mes invités eh bien, comment il y a peut-être des manières nationales de faire de la science-fiction et comment, en retour, on va le voir, la science-fiction peut être aussi l'expression d'une culture, d'une identité ou d'une histoire nationale. Alors, pour traiter de ce sujet avec moi, je vais vous présenter d'abord à ma droite donc Simon Bréant, qui est universitaire, professeur agrégé à la Sorbonne, et qui vient de publier sa thèse sur la science-fiction en France. C'est tout récent, et je suis extrêmement fier de l'avoir à mes côtés. Simon sera aussi modérateur sur un certain nombre de tables rondes, et est très très bon connaisseur de l'histoire du genre en France. À côté de Simon, nous avons Yael Ayerdal, auteur français, aussi de tout premier plan, à la fois à cheval entre la science-fiction, le polar, le space opera, enfin bref, il nous parlera aussi des racines culturelles de son travail. Extrêmement, tout juste à côté de moi, Georges Panchard, qui est un auteur français rare et un juriste de formation. Voilà, enfin, pardon, français suisse, pardon. C'est là, c'est l'émotion. Un auteur suisse, voilà, justement, ouais. Et juriste de formation, c'est ça qui me plaisait aussi, d'avoir enfin un juriste aussi à mes côtés. Auteur de Forteresse et puis de tout récemment Heptagone aux éditions de Ailleurs et Demain, voilà, qui vient d'être publié. À ma gauche, Norman Spinrad, que vous connaissez bien. Norman est un habitué des Utopiales et je suis toujours extrêmement fier de l'avoir aussi à mes côtés. Et il nous parlera eh bien, peut-être des conceptions américaines ou plus largement anglo-saxonnes de faire de la science-fiction, de penser la science-fiction. Et enfin, un quasi-compatriote pour moi, Tommaso Pincio, qui s'est déjà exprimé aujourd'hui, qui est déjà venu aux Utopiales l'année dernière, auteur de Cinecittà, auteur de Lo Spazio Sfinito, et qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je suis très fier d'avoir à mes côtés sur cette table ronde, et qui nous parlera là peut-être aussi des racines italiennes et culturelles de la science-fiction. Voilà. Donc merci à tous d'être là. Alors écoutez, sans plus tarder, j'ai envie de poser à la cantonade la première question. Peut-être je commencerai par notre ami universitaire, dont le dernier travail vient de paraître et est disponible ici, avec cette question toute simple. Peut-on considérer que la science-fiction est, d'une certaine manière, l'expression d'une culture nationale ? Peut-on considérer qu'en écrivant de la science-fiction, on transmet, on exprime aussi des éléments d'une culture nationale ? Simon.
Alors, ça marche, oui. La première chose que les auteurs, enfin que les, disons, critiques et écrivains français ont eu en tête lorsqu'ils ont reçu la science-fiction à l'américaine, ça a été très vite de chercher à délimiter une chose introuvable depuis, qu'ils ont cherché à appeler une école française de science-fiction. Et l'idée d'école nationale par rapport à un genre comme la science-fiction, en fait, historiquement, n'a pas de sens immédiat. C'est-à-dire que on peut, à cette question que tu avances là, répondre très simplement, bien sûr qu'il y a des modalités spécifiques dans chaque nation, dans chaque pays, dans chaque mentalité, qui vont ressortir dans la manière d'écrire, dans la manière de choisir des thèmes. Mais ce qui est certain, c'est que, enfin, à mon sens, c'est que la science-fiction est quelque chose qui traverse les frontières. Il y a de toute façon une façon commune d'envisager les thèmes de la science-fiction, la façon de les développer, et que ceci, au départ, c'est pas une façon de nier l'idée de nation, bien sûr, mais c'est qu'au départ, il me semble qu'il y a quelque chose qui unit toutes les science-fictions. Dans la démarche, dans le type de thème envisagé. Et ceci étant, on peut repérer une certaine façon d'envisager les choses. Et historiquement, ça correspond. Enfin, j'ai proposé pour les repérer l'idée de paradigme dominant. C'est-à-dire que dans un pays donné, dans une culture donnée, on va avoir à un moment un certain type de thème qui va être favorisé et ça va évoluer dans le temps. Et ces thèmes ne seront pas exactement les mêmes, ne se concentreront pas exactement de la même façon dans les différents pays, dans les différents environnements.
Oui, ce dont tu parles, en fait, dont vous parle Simon, c'est le poids du contexte culturel, c'est-à-dire des événements, même de la matière première, qui est la vie d'une société, sur les auteurs.
Oui, alors c'est à la fois le contexte de la société en tant que telle, donc qui va faire que, par exemple, il va y avoir un intérêt plus ou moins, enfin une certaine vision de la science, par exemple, dans une vision plus positive dans les années 30 aux États-Unis que dans les années 50 en France. Donc le matériau de départ n'est pas le même. Mais c'est aussi le fait que certaines choses vont mieux marcher, en quelque sorte, simplement. C'est-à-dire que la façon d'envisager la science-fiction, la façon d'envisager les différents thèmes va être différente à un moment donné. Je pense, alors pour prendre un exemple un peu plus clair, la première aspiration de la science-fiction en France, c'est l'élan vers l'espace. On associe l'idée de création en science-fiction à des images spatiales, des aventures spatiales. Mais la façon dont les Français envisagent cela au début, dans les années 50, c'est réellement, non pas comme un élan sans aucun problème vers un espace, mais vraiment comme un problème, c'est-à-dire comment réussir vraiment à décoller de la planète. Ils n'ont pas cette vision extrêmement libérée, en fait, que les Américains pouvaient avoir au moment du space opera dans les années 30.
Oui, c'est ce qu'on dit en général. On parle de l'optimisme américain et de ce qui est classique dans la culture américaine. Finalement, c'est l'appel de la frontière, l'appel du dépassement. Et c'est vrai que quelque part, on a ce space opera positif dans la culture américaine. Alors, on va rester un peu sur l'espace. Merci Simon. Je vais me tourner vers Norman Spinrad et je vais lui demander si est-ce qu'il considère, lui, en tant qu'auteur américain, que cet appel vers l'espace est toujours aujourd'hui une marque de la culture américaine. Et est-ce que finalement cet appel de la frontière reste comme une constante nationale américaine qui se retrouve dans la science-fiction américaine?
Well, that's a very complicated story because what really happened in the history of 20th century science fiction internationally is that other country science fiction was trying to imitate American science fiction. And American science fiction was very strongly published in Europe, whereas European science fiction was hardly published at all in the United States, partly, in large part, because of the economics of marketing and translating, and the fact that Americans sont très, très terribles avec la langue, mais, par exemple, ici, on m'a dit, pas l'anglais, it's simpler. So, whereas publishers in other languages, here in France or in Italy or someplace, usually have somebody that can read English, the American publishers don't have people who can read every other language, so they don't do it. They still don't do it. Then here we are in Utopials, which was founded by Bruno Della Chiesa for the very reason of really internationalizing science fiction, of having direct contacts between Italian writers and publishers and German writers and publishers and French writers and publishers, Spanish, so forth, without having to go through the intermediary of English. And I've lived here for a long time, and I saw the progress here where French writers sort of took over what was published in French science fiction. And perhaps the same sort of thing going on in other countries. On the other hand, at least for me and for certain other science fiction writers, I believe that the positive vision of science fiction has always been transnational, is to say what comes after all this chauvinism and nationality. I wrote two books, really, L'Enfant de Fortune et Le Dernier Croisier de Dragon Zephyr, written in a far future where nationality has disappeared, where all the languages are mixed together. So I think there is or has been a kind of American science fiction which has influenced the rest of the world, maybe not in a very good way. That is sort of falling apart. And it's falling apart because I think the United States, the culture, has lost its vision of a transcendent future. We haven't, particularly the sort of thing that was a science fictional future with going further than the planet Earth and going out to the stars and putting together a lot of different cultures. That's sort of really gone downhill in the United States. And I think that's a bad thing. So I think that the torch of international science fiction has become more transnational than it was when it was dominated by American science fiction. For an American science fiction writer, maybe this is not such a good thing, but I think for the health of the literature itself, this is a positive transformation.
Merci, merci beaucoup Norman. En fait, le poids de la langue, hein, comme il dit, c'est vrai que la langue est aussi une manière de penser le monde, hein, c'est-à-dire que selon la structure grammaticale de la langue, d'ailleurs Simon a travaillé sur cette question-là aussi, on a une manière différente de penser le monde, de regarder le monde. Et c'est vrai que l'émergence d'une science-fiction internationale peut être un signe très positif, comme il vous l'a dit. Mais pour moi, il y a encore, je pense, on n'a pas encore dépassé cette question véritablement des identités culturelles. Alors, je continue à faire des allers-retours. Je me tourne maintenant vers Heyerdahl. Pourquoi ? Parce que ça me fait penser le lien qu'on a établi. Heyerdahl, Yael, tu as un peu commencé, enfin, d'une certaine manière, enfin, ton départ avec l'Histrion, notamment, qui est un hommage à Frank Herbert, hein, d'une certaine manière. Et ce qui m'a intéressé, moi, justement, dans le cadre de cette table ronde, c'est la manière dont tu t'es, en quelque sorte, à la fois approprié un univers, tu l'as complètement dépassé en lui rendant hommage, et en même temps, tu as fourni un space opéra français. Et je voulais savoir si dans ton processus créatif, qui n'est pas un processus d'adaptation, qui est un processus créatif pur, mais avec un hommage derrière, est-ce que tu as eu l'impression, d'une certaine manière, de faire œuvre d'adaptation du space opéra à la française, de réhabiliter une forme de space opéra en France avec l'Histrion, moi, qui est un texte que j'avais absolument adoré et qui reste encore pour moi un des très grands textes de toi. Est-ce qu'il y avait ce sentiment de réinjecter du space opéra dans la science-fiction française ou pas du tout?
C'est très compliqué. Il se trouve qu'avant l'Histrion, j'avais déjà essayé un space opéra géant avec La Bohème et l'Ivraie, qui était peut-être plus particulièrement français ou en tout cas francophone que ne l'a été l'Histrion, puisque l'Histrion, j'ai réellement été. Je me suis servi de l'inspiration que quelques romans de Frank Herbert m'avaient donné pour montrer des modèles politiques différents des siens. Mais à aucun moment j'ai pensé, c'est peut-être ce qui a fait que ces bouquins se sont vendus, à aucun moment j'ai pensé que j'étais un auteur français. Je me suis d'emblée très naïvement considéré comme un auteur tout court, dont le genre préféré était la science-fiction, dont le mode d'expression favori en science-fiction était le space opéra, et j'y suis allé franchement, c'est-à-dire j'ai essayé d'écrire ce qu'écrivaient les auteurs de mon adolescence, ceux qui m'ont amené au goût de la science-fiction, ceux qui m'ont amené à penser que c'était l'un des genres qui pouvait le plus apporter à l'humanité d'un point de vue pédagogique, aussi d'un point de vue de réflexion idéologique, et je suis parti sans complexe. C'est un peu le cas de Pierre Bordage aussi qui n'est pas là, mais à peu près dans la même période, c'est-à-dire grosso modo la même année, on a écrit nos deux premiers romans qui étaient des space opéras géants avec aucun complexe. Les auteurs français jusque-là avaient le complexe soit du franchouillard, Soit de toute façon, nous n'arriverons jamais à faire ça, alors avec de plus ou moins mauvaises raisons. D'abord, nos éditeurs ne nous le permettront pas. On nous limite à 184 pages pour un roman. Donc là, on est dans les années 50, 60 et 70. C'est vers la fin des années 80 seulement que la plupart des éditeurs, je dis bien la plupart mais pas tous, prennent conscience qu'il n'y a pas de raison de limiter les ouvrages français, ni dans le mode d'expression, ni dans la taille, mais qu'on peut leur permettre d'exprimer dans des champs possibles qu'utilisent les anglo-saxons d'une façon générale, les américains en particulier, mais les anglais aussi, qui se sont lâchés bien avant nous. Et puis, il y a autre chose qui est important, j'avais une culture littéraire qui, pour essentiellement américaine qu'elle était, parce qu'on publiait majoritairement des ouvrages américains, quelques ouvrages anglais, mais mon père était un collectionneur fou et avait énormément d'ouvrages qui venaient de Russie, de Roumanie, de Pologne. À l'époque, pas vraiment d'Italie, parce que la SF italienne était naissante. Et j'avais lu déjà beaucoup de choses qui m'ouvraient sur une espèce d'européanisation de la science-fiction. Il y a une raison politique à ça qui est extrêmement forte. Quand je dis une raison, il y a une explication politique qui est extrêmement forte. Aux États-Unis, on a toujours eu peur du mot et des notions communistes. En Europe, même si on a essayé de nous créer ce fantôme effrayant qui allait tous nous manger et qui était le monde au-delà du mur de Berlin, le monde des pays de l'Est, on n'en a jamais eu peur. Donc on a pu développer des idées, des utopies qui étaient plus proches du socialisme tel que conçu au XIXe siècle, de la première internationale et de la deuxième internationale socialiste. Donc on s'est lâché facilement là-dessus. Il y a eu une période d'apprentissage, on a eu du mal à faire autre chose que des avenirs proches. Et puis, après, on a commencé à travailler. C'est ce que j'ai fait dans l'Histrion et dans Sexomorphose. J'ai inclus ma culture idéologique dans un univers de space opéra, très classique finalement, même si Frank Herbert a apporté énormément de choses par sa richesse inventive et surtout par sa façon de conduire les personnages. Je n'ai fait que transposer son travail dans des idéologies plus faciles à digérer en Europe.
Merci. J'aime beaucoup l'intervention de Yael Ayerdal parce que justement il montre à quel point la science-fiction en France, pas forcément la science-fiction française, hein, c'est encore un point qu'on n'a pas tranché évidemment, est marquée par le poids de l'idéologie. Et il vous a bien dit hein, quelles étaient ses cultures, quelles étaient ses lectures. Et c'est vrai qu'il y a aussi cette histoire de la césure qui est typiquement française hein, quand même. On en reparlera d'ailleurs dans une autre table ronde qui s'appelle French Technophobia. Il y a une césure, une cassure en France pendant très longtemps entre les études scientifiques et les études littéraires. Et pendant très longtemps, jusque dans les années 50, il n'était pas de bon ton pour un littéraire de connaître des sciences. Et inversement, on pensait que tous les scientifiques ne lisaient pas, ils étaient dans leur laboratoire. Et au-delà de cette schématisation, c'est quelque chose, comme il vous l'a dit, que les anglo-saxons, eux, n'ont pas vécu. Il n'y a pas cette coupure, cette césure chez les anglo-saxons entre la science et la littérature. C'est d'ailleurs pour ça que la science-fiction s'est développée plus tôt, peut-être, et plus de façon plus processuelle, je dirais, dans les pays anglo-saxons. Alors, je continue maintenant avec Georges Panchard. Désolé pour tout à l'heure, je me suis trompé. Donc, Georges Panchard est un auteur suisse. Donc, justement, le point de vue de la Suisse, le point de vue de Georges, est-il marqué, là encore, par une culture politique qui serait une culture spécifiquement suisse, une tendance à voir le monde d'une certaine manière en fonction de son éducation, de son vécu en Suisse, ou est-ce qu'au contraire, comme on a l'impression pour l'instant jusqu'à maintenant, ses références ont été purement et totalement internationales et qu'il s'est positionné comme un auteur tout simplement et non pas comme un auteur suisse ou national?
Alors, je voudrais déjà citer quelqu'un qui nous a quittés malheureusement et qui s'appelait Roger Gaillard, qui était le premier conservateur de la maison d'ailleurs à Yverdon, que j'ai connu quand il y a, je ne sais pas, 20 ans. C'était censé être pour Kesselring, réaliser une anthologie, c'était la première, je crois, de la science-fiction suisse. Et moi, j'avais envoyé des textes, j'avais jamais rien publié avant. C'était vers la fin du délai où on pouvait envoyer les trucs. Et puis, il m'a envoyé une lettre enthousiaste en disant « Oui, c'est bien, c'est formidable. » Mais il m'a dit d'abord un bout de contexte. J'ai reçu jusqu'ici à peu près, 70 ou 80, pardon, 70 ou 80 textes. Ça prouve que la science-fiction suisse existe. Il faut l'aider à pousser. et surtout pas, et je me souviens de ces termes, surtout pas en faire une horreur de type école suisse de la science-fiction. Alors maintenant, en ce qui concerne la Suisse, il y a quand même un point qui est très spécifique, notamment par rapport à la France, c'est que c'est une société plurilinguistique. La science-fiction française, on la connaît là où j'habite, on la connaît à peu près jusqu'à une ligne qui va en gros de Bâle à Sion, Sierre, au sud. Et après, on connaît la science-fiction allemande. Ce plurilinguisme, il a amené une ouverture par rapport aux langues qui est certainement beaucoup plus grande qu'en France. Moi, quand je prends le train matin et soir pour aller à mon travail et en revenir, je vois des gens qui lisent dans les genres science-fiction, thriller, qui se lit beaucoup, et fantasy. Une personne sur deux a la version originale en anglais. Donc là, il y a beaucoup moins d'effets d'entraînement et d'annexes de ce qui serait typique de la science-fiction française comme Yal l'a exprimé.
Très bien, merci. Donc on est toujours envoyé dans cette vraie résistance, d'une certaine manière, je ne peux pas en se parler de résistance, à reconnaître ou à admettre d'une certaine manière, peut-être que justement, je joue avec ça, hein, c'est une hypothèse, qu'il y aurait des dimensions nationales. Alors je me tourne vers l'Italie, vers Tommaso Pinchot, et lui a un rapport donc d'un auteur italien à la science-fiction, mais d'un auteur italien marqué fortement, me semble-t-il, par la culture américaine, et notamment par le jeu qu'il fait extrêmement savoureux. Je vous renvoie à Lo Spazio Sfinito, dans le titre français... c'est quoi le titre français de l'Ospatio? Un amour d'outre-espace. Un amour d'outre-espace qui est disponible et qui est une magnifique réflexion extrêmement, extrêmement pleine de dérision, pleine d'autodérision et de satire sur les repères culturels américains. Alors, Tommaso, l'Italie marquée par la littérature de science-fiction américaine. Moi, chaque fois que je vais en Italie, je suis même impressionné par le nombre d'auteurs américains encore aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une manière italienne de faire de la science-fiction? Est-ce qu'il y a une manière italienne de se saisir de ces grands thèmes de la science-fiction pour peut-être y injecter quelque chose qui serait purement latin?
Science fiction in Italy is a big problem. Probably the most important Italian movie producer, Carlo Ponti, who was also the husband of Sophia Loren, did say that he would prefer someone killing than to produce a science fiction movie. And he said that in the 50s. But as a matter of fact, in 65, he produced maybe the best, the most interesting science fiction Italian movie, which is The Tenth Victim, that you projected here the last year, and is... inspired from a very beautiful short story of Robert Sheckley. As a matter of fact, science fiction arrived in Italy basically, we can say exclusively, because of the American writers. And it was a genre imported from the United States. At the end of the 50s, there were a big magazine called Urania, and all the writers were from the United States. And the few Italian writers who publish something in that magazine publish with under pseudonym, faking themselves as they were American. So that means that there was a public for science fiction in Italy, but at the same time, science fiction as a kind of narration was something strange to the Italian culture. And as a matter of fact, if you read the history of the science fiction, there are many in the world, you don't have many Italian writers quoted. The only three that you always find are Dante Alighieri for the Divine Comedy, which is considered a sort of a prototype science fiction poem because of the travel through the through the other world. Italo Calvino, who was actually a writer of fairy tales, not a science fiction writer, and Tommaso Campanella, because the invention of Utopia. But, this is very interesting because we have many, actually, we have many writers, very many more important writers who try to rose about, fantastic and scientific imagination. But it's not, very related to our culture. And I think it becomes, our tradition, especially the religious tradition. So it means that science fiction is it has its own national identity. I would like just to finish my speech to quote Jules Verne. Jules Verne in his novel of the traveler around the moon said an interesting thing. You know that in the novel the characters go to the moon, but they don't go in the moon. They just go around the moon. And one of the characters said an interesting thing, which is, the conquest of the moon is not for French, but for the pragmatic spirit of the Americans. So he predicted very well, because, actually the Americans went to the moon. So to me, it's right. It's very important to the spirit of the nation when you speak about science fiction.
Ok, thank you. Thank you very much. Alors, vous voyez, maintenant, on a fait le tour un petit peu, et j'ai donné vraiment à chacun le temps de s'exprimer. On voit finalement qu'il y a porosité entre les différentes façons, je dirais, de penser la science-fiction ou de faire de la science-fiction, et qu'en définitive, chacun d'entre eux, à sa manière, vous a dit, sauf vous m'arrêtez si je me trompe, mais vous a dit que finalement, il ne s'était jamais positionné comme un auteur français, un auteur suisse, un auteur américain ou un auteur italien, mais un auteur de science-fiction, c'est-à-dire un auteur qui utilise les thématiques et les outils conceptuels de la science-fiction pour penser le monde. Alors finalement, c'est vrai en même temps, moi je pense que c'est tout à fait la démarche qu'un auteur a toujours de ne pas être pensé comme un auteur national, bien sûr, pas limité aux frontières nationales, mais c'est aussi une manière, moi j'insiste, d'occulter un certain poids, le poids de l'histoire personnelle, le poids de l'éducation. Mais si d'une certaine manière la science-fiction a une vocation à l'universalité, si elle veut être une littérature d'expression, transnationale, comme l'a dit tout à l'heure Georges, eh bien, elle est peut-être aussi, elle, constitutive d'une nation. Et la question que j'aimerais leur poser maintenant, dans la deuxième partie de la table ronde, c'est pourrait-on parler d'une nation science-fiction ? Pourrait-on considérer que la science-fiction, à elle seule, constitue une nation de l'imaginaire, une nation avec son territoire, ses valeurs, son histoire commune, sa langue partagée, puisqu'on sait qu'il y a des outils techniques, des techniques narratives de la science-fiction. Et est-ce qu'on pourrait considérer d'une certaine manière que si on accepte le côté physique d'un territoire, on peut considérer la science-fiction comme une nation ? Alors peut-être qui veut intervenir en premier ? Peut-être Simon. Alors Simon, dans ta thèse notamment, il y a toute une partie moi, qui m'a beaucoup intéressée sur ça justement, sur la science-fiction comme peut-être territoire de l'hypothèse, territoire d'élection de...
Alors, pour nuancer un petit peu ce que je disais tout à l'heure et pour réagir bien sûr à ce que tu viens de dire, j'aimerais préciser que même s'il n'y a pas d'école française de science-fiction, même si ça n'est pas un fonctionnement où on pourrait, dire automatiquement en prenant n'importe quel texte, on lit le texte et là, on sait que l'auteur est français, là on sait que l'auteur est américain. Il y a évidemment d'une part des indices culturels qui sont présents, on peut facilement rattacher quand même des auteurs français certains auteurs français se font un mérite, je dirais, de parler de réalités qui sont des réalités françaises au départ. Le fait de parler de Paris, le fait de prendre un futur qui serait le futur de l'Europe, on peut rattacher à ce genre de choses. Mais alors, il y a des indices. Est-ce que ça suffit à caractériser la science-fiction ? Peut-être pas. Mais par rapport à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire proposer l'idée d'une nation de science-fiction, je dirais que, et par rapport à ce qu'avait dit avant Norman Spinrad, un énorme problème pour cela, c'est qu'il n'y a pas une circulation facile d'un environnement à un autre. La barrière de la langue et plus généralement la question de la publication s'y oppose. Ce qui va faire que, par des mécanismes qui sont très intéressants à étudier, on a une situation où les auteurs français, par exemple, sont des gens qui s'inspirent à la fois des auteurs américains, par exemple, mais aussi des autres auteurs français et de tout ce qui peut être publié dans le domaine français. Et donc, la science-fiction qui se fait en France se fait en grande partie en fonction de la science-fiction publiée en France, qui n'est pas la totalité de la science-fiction. Et inversement, et de façon complémentaire, la science-fiction américaine se bâtit sur les références publiées aux États-Unis. De ce fait, il y a, des séparations irréconciliables. La démarche va être la même, mais le produit exact va toujours être déterminé, pour le coup, par un marché. Et tant qu'il n'y aura pas, quand je dis marché, c'est vraiment au sens très large, tant qu'il n'y aura pas un champ littéraire qui inclurait potentiellement toutes les références, c'est une espèce de bibliothèque de Babel idéale, eh bien, à ce moment-là, il y aura toujours des courants qui vont être des courants, nationaux, et après qui peuvent être individuels. La culture d'un auteur peut être branchée sur une autre culture. Voilà. Donc, il y a ces barrières-là qui s'opposent, je dirais, à ce qui est une unification, de toute façon, des influences. Et il y a donc, du coup, effectivement, un poids de l'histoire et un poids de l'organisation du champ géographique qui est à prendre en compte.
Yael, peut-être ? Une nation science-fiction ? Tu es citoyen de la science-fiction ?
Je vais essayer de rebondir un petit peu à la fois sur ta question et sur ce que tu viens de dire, Simon. J'ai récemment assisté à une conférence d'association de traducteurs européens qui disent que la nation européenne a une langue, c'est la traduction. Nous sommes tous obligés en Europe, pour parler les uns avec les autres, de passer par le filtre de l'interprète ou du traducteur. Parce qu'on parle, je ne sais plus maintenant exactement combien de langues, j'ai perdu un peu le compte, mais je crois 14. 14 langues différentes, principales, et pour communiquer les uns avec les autres, soit on décide qu'on utilise une seule langue, auquel cas, intuitivement, instinctivement, on va se tourner vers l'anglais, puisque cette langue est mondialement utilisée et qu'elle elle représente l'essentiel de la culture mondiale. Enfin, c'est pas qu'elle la représente, mais elle est la porteuse d'un maximum de culture. Soit on fait l'effort de passer par un filtre qui est la traduction. Et ce qu'on fait d'un point de vue politique, économique, on le fait aussi d'un point de vue littéraire. Pour ça, actuellement, la communauté européenne réfléchit à financer davantage la traduction littéraire et à permettre aux traducteurs d'avoir d'abord la capacité de se nourrir, ce qui serait très bien parce qu'il y a des pays où c'est très facile. 65 ou 66 millions de Français, ça offre un marché. 11 millions de Belges aussi, mais sauf que 11 millions de Belges, il y en a 6 millions qui parlent le néerlandophone, 5 millions qui parlent le français. Et puis, il y a des pays comme le Danemark où là, le marché est tellement faible que produire une culture ou produire des traductions en danois, c'est à perte nécessairement. Donc on réfléchit beaucoup dans la communauté européenne à permettre à la traduction d'être réellement cette langue européenne, mais aussi d'un point de vue littéraire. Et la science-fiction a un petit avantage par rapport à d'autres domaines littéraires, c'est que elle est venue tardivement en Europe et elle est venue essentiellement des États-Unis. Pratiquement, même si c'est un petit peu moins flagrant en France que ça ne l'a été en Italie, en Allemagne, en Hollande, qu'est-ce qui nous a formé, nous lecteurs, à aimer la science-fiction ? Ce sont les auteurs de science-fiction américains, c'est la littérature américaine. Et s'il y a une unité internationale, à défaut d'être mondiale, autour de la science-fiction, autour d'une sociologie de la science-fiction, elle passe par la créativité science-fictive des auteurs américains, on va dire à la fin des années 30, 40, 50, 60, 70, etc. Tout à l'heure, tu m'as fait parler un petit peu de Frank Herbert parce qu'un de mes bouquins y est consacré, mais Norman Spinrad, j'ai déjà eu l'occasion de le dire plusieurs fois, c'est l'essentiel de ma culture science-fictive, c'est ce qui m'a donné envie d'écrire de la science-fiction. C'est ce rebelle dans la littérature de science-fiction américaine, ce mec qui a dit zut à un système, ce type qui est venu, qui s'est installé un moment à Londres, qui a pu publier Buck Jack Barron grâce à Michael Moorcock et puis qui ensuite a déménagé à Paris parce que c'est ça qui a aussi fait partie de ma culture, mais il n'est pas le seul. Il y a bien sûr d'autres comme Frank Herbert. Je ne peux pas dire que politiquement tu es proche de Frank Herbert, mais on a toute cette richesse là essentiellement américaine, mais aussi anglo-saxonne, dans la mesure où les auteurs britanniques nous ont énormément apporté, parce que, d'une part, ils avaient cette facilité d'inventivité qui est assez proche de celle américaine, mais aussi parce que politiquement, ils n'étaient pas aussi éloignés que ça de ce qu'on vivait en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie, etc. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question.
Oui, très bien, même avec beaucoup de détails. Norman, justement, puisqu'on a parlé un peu, on revient sur les États-Unis et sur toi, ton rapport aussi à la science-fiction. Et finalement, il y a une question qui se pose aussi, c'est qu'aux États-Unis, il y a quand même une très, très petite minorité d'auteurs français présents, traduits et lus aux États-Unis. C'est peut-être l'un aussi des éléments sur lesquels on pourrait réfléchir.
Well, there are two things I've got to say. Is this thing live? Yeah. One is I detest the idea of a science fiction nation. I detest the idea that there's a culture of science fiction, commonly known as fandom, that results in the genreification of this literature in every country where this occurs. I think this is a closure against the influence from other literature. Other people are writing the same sort of thing that we are writing. They're writing it in Italy. They're writing it in the States. They're writing it here. How do you classify Michel Houellebecq, for example, or Maurice Dantec? And there's a paradox here. So that's what I think about the idea that science fiction is some kind of phony nationality is a very bad thing. And something which, as being said, that the new wave in England and what I've been doing since I came here tries to break out of that and be influenced by multicultures and not by a new synthetic culture called science fiction. That's bullshit. But there certainly is a problem with the dominance of the English language. It's a problem. Every publisher in most major European countries, and smaller ones as well, have people that can read English. American publishers do not have every American publisher, very few American publishers, maybe they have somebody that speaks French, and somebody that speaks German, and somebody speaks Italian. But by and large, they're not able to read in the original language. Now, before he was unfortunately killed in the car accident, Roland Wagner and I were working on something, which was, to me, I read Rêve de Gloire in about 2 weeks in my second language, in French. And I think it's a very great novel. It's also very French. So Roland and I were engaged in a new kind of translation, which my ex-wife, Lee Wood, and I did also with some Romanian book, which is you get a rough translation from the French into some kind of English, and then it gets rewritten. So we were working on something like that. So I think the idea of a science fiction nation is bad because I also think, and I don't want to get into this right now, that the idea of nationality itself is not so good. Yes, culture, yes. In Le Printemps Brousse, I talk about a Europe not of nation states but of peoples, of cultures. So I think to the extent that there is an openness in the world of science fiction, partly because people feel that they themselves have become some kind of transnational oppressed people. There is an openness there. And the history of this very event is all about that. Bruno de Licciese originally conceived of utopias as a way of having multi-direct communications between writers and publishers in all the countries of Europe and to some extent in the States, and even Japan, and on one occasion Cuba, with each other as a community of artists and publishers, but not as a closed, phony nationality.
Yeah, thank you very much, because you finally react to my provocation, and I'm glad. Et merci de l'avoir provoqué aussi. Oui, finalement, voilà ce qu'il vous dit. Il vous dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'une nation de la science-fiction ? C'est totalement insupportable pour moi. Et donc, effectivement, peut-être que ce titre, justement, et c'est une manière de provoquer aussi, mais en même temps, moi, il y a quand même quelque chose qui me chiffonne un peu dans tout ça, et peut-être c'est le moment de faire intervenir aussi un peu le public. Si vous n'intervenez pas, je reviendrai sur Georges pour le côté multiculturel de la Suisse. Ce qui me chiffonne un peu, c'est que, d'une certaine manière, on a l'impression que parler de nation aujourd'hui, pour la science-fiction, c'est presque comme si on glissait vers déjà des nationalismes, c'est-à-dire des idéologies exclusives les unes des autres. Et d'une certaine manière, la nationalité et le nationalisme, moi en tout cas, en tant qu'historien, me semblent deux choses extrêmement différentes. Dans un cas, c'est une idéologie qui a vocation à écraser toutes les autres. Dans un autre cas, c'est simplement la pratique et la culture d'une identité. Et cette idée de nation de science-fiction, c'était plutôt l'idée d'une communauté, en réalité, dont on pourrait parler communauté d'auteurs, communauté de moyens, etc. Alors, est-ce que dans le public, j'aimerais bien qu'il y ait des réactions sur cette idée, est-ce que vous voulez réagir sur cette dimension nationale ou pas ? Sinon, j'ai une question sur le multiculturalisme aussi, un mot très à la mode, mais très mal compris souvent à poser à Georges Panchard. Allez-y. Merci.
Bonjour. C'est juste une question plutôt sur la première partie. Vous avez parlé de nations diverses qui faisaient de la science-fiction. Je connais très peu d'auteurs africains ou d'auteurs asiatiques, à part, je dirais, le Japon, peut-être. Mais voilà, comment on pourrait l'expliquer ? Parce que sinon, on aurait une nation un peu, excusez-moi le terme, blanche.
Oui, alors, il y a, effectivement, c'est une très bonne question, on pourrait répondre. Il y a des auteurs afro-américains, des auteurs africains, asiatiques aussi. C'est le problème toujours de traduction aussi, hein, évidemment.
Je crois qu'aujourd'hui, le pays qui a le plus d'écrivains de science-fiction, c'est la Chine. Le hic, c'est que, et en plus, il y a un lectorat énorme, mais vraiment énorme. Un fanzine en Chine, c'est 1 million d'exemplaires. J'ai une nouvelle qui a été traduite en chinois, pour laquelle j'ai touché $50. Mais elle a été lue par 1 million de personnes. C'est énorme. C'est fabuleux. Et il y a énormément d'auteurs. Le hic, c'est que on n'a pas encore... Je pense que nos éditeurs... Et surtout, il n'y a pas d'agents qui viennent de la Chine, qui viennent faire le travail de la Chine vers l'Europe ou vers les États-Unis. Et les éditeurs n'ont pas pris conscience de cette richesse-là. C'est une science-fiction qui est très différente de celle que nous connaissons, nous, dont les obédiences sont essentiellement anglo-saxonnes, parce qu'elle se nourrit d'une part de la culture fantastique chinoise et d'autre part de l'innovation technologique ultra rapide et économique aussi de ces 20 dernières années. C'est cette espèce de croissance phénoménale. On ne la connaît pas, elle va venir un de ces quatre. En Afrique, la science-fiction écrite, parce que la science-fiction, entre guillemets, orale, née de l'oralité, qui sont les contes et légendes, l'équivalent de nos contes et légendes, a déjà une petite existence. Mais on voit apparaître dans des pays comme la Tunisie, le Maroc, l'Égypte, de plus en plus d'auteurs qui se détachent de ce qu'on appellerait, nous, de la fantaisie, pour écrire de la science-fiction. Alors, c'est de la science-fiction qui est très sociologique, qui est très ancrée sur les problématiques actuelles que traversent ces pays, mais elle apparaît. En Amérique latine aussi, t'aurais pu dire qu'on connaît très peu d'auteurs latino-américains. Bon, on en a un ou deux qui viennent de temps en temps ici, parce que, entre autres, Yos, qui est cubain, et on va dire que c'est un invité, pas quasi permanent, mais régulier, des Utopiales ou d'autres. Mais il y a des auteurs argentins, il y a des auteurs chiliens, il y a des auteurs brésiliens, il y a des auteurs péruviens, boliviens, uruguayens, etc., et qui commencent à avoir une production assez importante. Or, comme ces nations-là n'ont pas été inondées de textes anglo-saxons, ils ont une liberté d'approche que nous n'avons pas en Europe. Mais on ferme un petit peu la porte quand on est un éditeur, parce qu'on estime que le lectorat est habitué à un certain type de littérature et donc, du coup, n'accrochera pas forcément avec les autres littératures. On le sait, on l'a vu par l'intermédiaire du polar et du thriller. Le jour où Actes Sud a ouvert la porte aux auteurs scandinaves, cette idée-là était un préconçu inepte.
Je souligne au passage qu'il y a de la science-fiction iranienne, hein, par exemple, aussi. Hein. Il y a des études actuelles, qui sont des recherches actuelles universitaires sur la science-fiction iranienne, ses sources et ses influences.
Well, this is a part of the genrefication, too, because actually, Latin American magic realism has had a great effect on science fiction, maybe filtered second hand or something. There's a huge tradition of Latin American science fiction. Well, in fact, Carlos Fuentes was ambassador to France as well. Marquez. Now, if you're taking a limited view of what science fiction is as a genre, you don't see this. You don't see that there are more Italian authors than Calvino and Dante who are writing something that is aesthetically, philosophically, linguistically, imagistically related to what we call science fiction. And part of that, part of what the New Wave in Britain was all about, although it was mostly an Anglophone stuff, is that this is a false barrier. In Eastern Europe, there was a whole tradition. I happen to know Romania pretty well, although I don't speak much Romanian. Before the fall of Ceausescu, there was a very rich Romanian science fiction tradition that went back into the 20s. But it was including people like Ionescu. It was politically underground literature. It was surrealism. All these things were related to the Romanian tradition of science fiction. You had some of the same sort of thing in Russia. I'm not familiar with the Chinese stuff. But there, this is, if we look at what we're doing, at what we're writing, and what we're reading in a more open-minded way, you see that this literature really has been transnational for quite a while. I mean, who are the two foundations of so-called modern science fiction? A Frenchman, Jules Verne, and H.G. Wells, who had big philosophical arguments with each other all the time, plus, arguably, an American Mark Twain. So if you look at it outside this narrow genrefication, it has always existed.
Thank you. Toujours dans la. Alors j'accélère un peu parce que il me faudrait en fait. Malheureusement, moi je peux pas faire ça. Mais il me faudrait au moins encore une bonne demi-heure parce qu'on a encore pas suffisamment parlé des langues. Parce que le rêve d'une langue où on pourrait tous se comprendre effectivement, c'est aussi l'un des thèmes de la science-fiction. C'est pas un hasard. Les langages de Pao, la sémantique générale, etc. Est-ce qu'il y a encore une question dans le public? Sinon, j'aimerais bien poser une question à Georges Panchard sur justement l'aspect multiculturel.
Oui, faire le public pour une fois.
Allez, vas-y.
Je vais te poser une question parce que je vis en Belgique depuis quelques années et nous avons trois langues en Belgique, le français, le néerlandais et l'allemand. L'allemand étant une collectivité sous-représentée, il n'y a pas du tout d'auteur de science-fiction de langue germanophone en Belgique. Par contre, il y a quelques auteurs de science-fiction néerlandophone et quelques auteurs de science-fiction francophone. Ce qui m'effare, c'est que les auteurs de science-fiction francophone ne sont pas traduits en néerlandais et les auteurs de science-fiction néerlandophone ne sont pas traduits en français au sein d'une même nation. Donc ma question, c'est en Suisse, comment ça se passe ?
Bon, j'ai l'impression que c'est assez similaire, peut-être pas pour les mêmes raisons. Il n'y a pas la même hostilité de part et d'autre de la frontière linguistique. De ce côté-là, si on parle de multiculturalisme, ça se passe mieux, ça se passe clairement mieux en Suisse qu'en Belgique. Ça rejoint des questions qu'on a mentionnées de taille de marché, de choses comme ça. Moi, j'aimerais juste, puisque j'ai le micro, faire une allusion à quelque chose que tu as dit avant. C'est autre chose, mais qui me semble très important. C'était à propos des traducteurs. Que la traduction, parce que je travaille pour l'administration fédérale suisse et celui qui était à une époque le grand maître idiot des services de traduction et qui formait les traducteurs de l'allemand en français, qui s'appelait le professeur Truffaut, qui à mon avis n'avait rien à voir avec le cinéaste, qui était un universitaire français, disait traduire, c'est traduire une idée. C'est pas traduire une phrase, c'est pas traduire des mots, c'est traduire une idée. Ça n'empêche pas qu'il y a cette relation très profonde, et ça le traducteur doit savoir en jouer, entre la langue d'une population et l'esprit de cette population. Moi j'entendais un responsable de l'ONU pour les questions de développement. Ils arrivent sur certaines îles du Pacifique en disant, voilà, on vient vous aider au développement. Alors maintenant, comment est-ce qu'on dit développement dans votre langue? Le concept n'existait pas. Ils ont même pas inventé un mot, ils traduisaient ça par la chose des Blancs. Autrement dit, le développement, ça leur était étranger, ils en avaient strictement rien à foutre. Je veux dire, et ça, cet aspect linguistique, il est extraordinaire, fort, parce que c'est aussi fort que nos gènes. C'est vraiment très, très fort. Alors, ce qui m'amène d'une certaine manière à la question de la nation, de la science-fiction, Norman Spinrad a dit, mon Dieu, quelle horreur. Et moi, je vais peut-être pas aussi loin, mais je dis simplement, j'en éprouve pas le besoin. C'est plutôt comme une sorte de... On vit à l'ère de l'hypercommunication, et puis on parle de plus en plus, on emploie le terme anglais de cloud, hein, pour des masses de données qui existent de manière plus ou moins virtuelle et auxquelles on peut ou on ne peut pas accéder. Moi, je vois plutôt ça comme une sorte de cloud qui met en relation un certain nombre de pensées, d'inspirations, d'idées, de mots, et puis voilà, c'est et de, je ne parlerai pas de territoire. Si on parle de territoire, alors on arrive à une question spécifique différente de la science-fiction, c'est les thématiques. Voilà. Merci. À part ça, je n'ai peut-être pas répondu à ta question, mais j'ai répondu à un tas d'autres questions qui ne m'étaient pas posées.
On a bien avancé. Alors j'imagine que le public est plus perdu qu'il ne l'était au début de cette table ronde, parce qu'évidemment, on a fait en quelque sorte qu'effleurer hein, tout ce qui est derrière cette question des composantes, du problème. Vous remarquerez quand même qu'on a énormément parlé du problème de la linguistique. Et je regrette maintenant, il nous reste 3 minutes et on ne peut pas parler suffisamment, mais quand même dans la linguistique, je me retourne vers Simon, qui a étudié ça beaucoup notamment dans sa thèse. C'est vrai qu'une langue, c'est une manière de penser le monde. C'est aussi peut-être pour ça que la science-fiction ne pourra peut-être jamais être uniforme, Simon, à moins d'avoir une langue universelle.
Là, en 30 secondes, ça va être difficile. Le fait est qu'il y a des procédés qui sont des procédés textuels qu'on peut repérer dans différentes langues. Mais l'idée générale reste la même. Et là, c'est tout à fait cette idée du concept et l'apparition du mot correspondant à ça. Parce que finalement, on a la démonstration dans la science-fiction du fait que, au contraire, un écrivain peut proposer un nouveau concept en avançant un nouveau mot. Et il va l'articuler un certain nombre de choses. Et d'une certaine façon, c'est peut-être pour ça, il y a une possibilité peut-être plus importante pour la science-fiction de traverser des frontières culturelles, dans la mesure où, de toute façon, le simple fait d'approcher un texte de science-fiction, c'est déjà remettre en cause, du moins se disposer à remettre en cause, ses préconceptions culturelles.
Oui, et les définitions.
Donc, voilà. Et donc, en fait, cette question de la traduction, elle est importante, mais elle c'est presque un atout pour la science-fiction. Parce que la réflexion sur ce que c'est que traduire un texte intervient même quand on est dans la langue du texte. C'est-à-dire un texte français que je lis en tant que français, j'ai besoin de le traduire en partie, puisqu'il y a des mots nouveaux, il y a des conceptions nouvelles, et il faut que je parte de ce que les gens disent ou font pour comprendre les mentalités de la société qui est représentée. Donc, d'une certaine façon, cette démarche de déduction et de compréhension, elle est déjà inscrite dans le fait d'écrire la science-fiction. Et ça, c'est encore une chose qui, disons, unit toutes les science-fictions du monde, puisqu'on va retrouver ça. Mais après, évidemment, la manière de l'écrire va changer énormément selon la langue. Mais là, c'est large.
Merci. Allez, alors vous avez vu pendant cette table ronde un certain nombre d'ouvrages qui sont parmi les ouvrages symboliques ou ceux tout simplement que j'ai choisi des auteurs présents. Désolé de ne pas vous avoir fait plus parler, de ne pas vous avoir donné plus de temps, et je vous remercie beaucoup, et merci à vous, et bonne continuation, bonnes utopiales. Merci.